Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table des idées. À partir de 12h55, ce sera la juriste Mireille Delmas-Marty qui sera notre invitée. Elle plaide depuis longtemps et à nouveau dans un ouvrage sorti au printemps dernier pour un humanisme juridique. Avec elle, nous reviendrons aussi aujourd'hui sur l'état du droit et ce que peut le droit face au terrorisme. Est-il une boussole possible? Nous en parlerons dans une petite heure avec Mireille Delmas-Marty. Mais d'abord, la grande table culture, une fable écologique, un film de fin du monde, Last Words, derniers mots, dernières images, dernier homme, le nouveau film de Jonathan Nociter, adapté d'un roman de Santiago Amigorena, Les derniers mots, sort en salle ce mercredi avec Khalifa Touré, Nick Nolte, Charlotte Rampling. Notre invité, le cinéaste Jonathan Nociter, est avec nous jusqu'à midi et demi. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
June Carol a dit le mot, c'est un double fleur. Faites-le la bande. Dès le mot, la bande du Niacon. Ma kilo, mais le mot.
Look at all of this.
Et voici, nous sommes les people together.
Nous sommes le 20 juin 2086, dit la voix. Étais-je le dernier? Nous faudra-t-il nous habituer à parler comme lui? Nous voilà plongés au cœur de Last Words, derrière un jeune Africain qui est le narrateur. Le protagoniste de ce film, Les derniers hommes, tente de survivre dans un continent désertique où toute vie végétale aurait disparu. Après Bologne, il part avec un vieil homme, épris de cinéma, vers Athènes, où ils vont découvrir une communauté de réfugiés dans un décor antique, entouré de verdure, près d'une mer rouge, d'une mer morte, s'y installer jusqu'au dernier. Bonjour Jonathan Nociter.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec
nous. Après, vous allez dire que c'est une comédie, n'est-ce pas?
Bien sûr, ça va arriver, mais je le mettrai dans la bouche de Fellini, si vous le voulez bien. Une odyssée des derniers temps, un film beaucoup plus optimiste qu'il n'y paraît. Voilà, après avoir célébré, et c'est ce que vous faites dans votre cinéma, le vivant dans Mondovino ou dans Résistance naturelle, la joie de vivre dans Rio Sex Comedy. Pourquoi vous avez eu envie d'adapter ce récit de Santiago Amigorena, qui est une dystopie hein, pour les uns, mais qui est aussi une utopie post-apocalyptique pour les autres? Vous, le réalisateur, le cinéaste, vous vous situez où?
Bah, c'est marrant maintenant en écoutant le petit extrait de Khalifa quand il arrive à Athènes avec Nick Nolte et il découvre, parce qu'il pensait avoir été seul sur la planète, et découvre qu'il y a peut-être quelques centaines de réfugiés qui sont dans un camp de réfugiés au pied de l'Acropole. Et en fait, en l'écoutant maintenant, ça fait penser, mon Dieu, Khalifa, qui n'est pas un comédien, donc que j'ai rencontré dans un camp de réfugiés à Palerme, quand je faisais le casting. Pour lui, en fait, c'est que maintenant que je me suis rendu compte que pour lui, cette scène, quand il a vu des centaines de personnes, de figurants groupés dans des tentes autour du temple... En fait, pour lui, c'était déjà vu. Et quelque part, je pense que bon, la force de sa présence comme non-comédien à côté de Nick Nolte, de Charles Rampling, de Stan Skarsgård, c'est parce que, étant un réfugié de la Gambie, et on fait le parcours terrible de chez lui, après 6 mois arrivé en Méditerranée, il a déjà vécu la fin du monde. Et s'il est dans le film, c'est parce que quand j'ai rencontré... Il a une vitalité. Il aurait droit à être amer, méchant, méprisant, cynique. Et c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre et qui regarde en avant. Et je trouve ça, je pense qu'au fond, c'est ça, pour répondre à votre question. Quand j'ai lu le livre de Santiago, qui est très différent du film, mais au fond, Santiago, malgré, je pense, sa lucidité... face aux catastrophes écologiques de notre époque, pour Santiago, la parole, le mot, la littérature reste quelque chose qui nous donne de l'espoir, juste parce que ça existe. C'est pas de l'espoir stupide et cynique hollywoodien happy end qui est censé balayer une heure et demie de violence pornographique, ce qui est à mon sens du moins, le sien qui nous domine. Mais dans le livre de Santiago, il a vraiment écrit une lettre d'amour à l'importance de la survie de la littérature. Évidemment, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à mon amour qui est le cinéma et j'ai cru
pouvoir... Vous avez transposé.
Ouais, bah c'est ça.
Ouais. Mais d'ailleurs, la fin du film n'est pas happy, hein, comme vous l'évoquez, Jonathan Nociter, mais elle est pleine de poésie. Et cet acteur, parce qu'il l'est devenu à travers votre caméra, Khalifa Touré, comme vous le dites, et sans aucune démagogie, crève absolument l'écran. Enfin, il est vraiment d'une beauté, il dégage une vie qui se communique très facilement aussi, je pense, pour le spectateur. Si on revient sur ce que raconte le film, sur ce qu'il montre ce désastre écologique, mais aussi culturel que vous évoquez, est-ce que c'est un film réaliste? Je vous propose qu'on écoute peut-être juste les mots de votre partenaire, de votre complice dans l'aventure, Santiago Amigorena, puisque c'est son livre que vous avez adapté à votre manière. Il était avec nous à Deauville, où le film était présenté.
L'idée de base du livre, c'était de ne pas raconter une fin du monde comme on en a raconté plein, donc où c'est les machines qui prennent le pouvoir, ou alors il y a une grande inondation, un grand tremblement de terre, une météorite qui... Mais de dire que voilà, que tout ce qu'on était en train de faire, c'était pour la fin du monde. Donc aussi bien notre manière de vivre, notre relation à la terre, notre relation à la culture, à l'agriculture. Donc tout ça était un peu une critique de tout ça. Et quand j'ai écrit, je me suis amusé à faire l'histoire du monde entre 2000 et 2086. Donc il y a toutes les catastrophes qui arrivent. Il n'y a pas de politique sans utopie. Donc pour faire quelque chose contre ce qu'on est en train de vivre, pour aller contre, il faut absolument imaginer quelque chose qui peut être la fin du monde.
Ben oui, et puis ces catastrophes, elles sont déjà arrivées, elles commencent à arriver, elles sont déjà là. L'épidémie, ce virus qui tue, ces masques qu'il nous faut porter, cette distanciation sociale qui s'impose, tout ça est dans votre film. Et ce film, ça fait 6 ans que vous travaillez dessus. Donc c'est loin d'être évidemment une fenêtre directe sur l'actualité, mais voilà aussi la force du cinéma. Vous évoquiez cette transposition entre la littérature et le cinéma. Dans le livre d'Amigorena, en effet, c'est la littérature qui va sauver l'homme de la barbarie. Pour vous, le cinéma, pourquoi vous avez quand même gardé son titre, Last Words, les derniers mots? Est-ce que c'est si anecdotique que ça?
Je suis désolé, mais c'est possible que ça soit si anecdotique, parce que je pense qu'un titre... n'est jamais le reflet d'une œuvre, comme je pense que la fin d'un narratif n'est jamais l'expression du narratif lui-même. Et moi, je maintiendrai avec tout cœur que le film est un film joyeux, qui est un film qui fête la vitalité de la culture et même des plus petits gestes de tendresse humaine, compte tenu combien on est barbare, sauvage, et on vit dans un monde d'un cynisme... terrible et donc le titre n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Je pense en fait c'est un film avec très peu de mots. Les gens ne, en fait, parce que c'est un peu un Babylone, un tour de Babel où les gens parlent beaucoup de langues sans vraiment s'exprimer. Pour moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, et j'en suis très fier de cette scène parce que je l'ai pas écrit. Et j'ai juste témoigné de l'improvisation de la grande comédienne italienne Alba Rohrwacher et Nick Nolte quand ils ont inventé un langage d'échange dans le jardin magique qu'elle essaie de cultiver malgré la fin du monde végétal. Et avec Nick, ils ont inventé un langage sans mots, une manière de s'exprimer. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que ça veut dire tous leurs gestes, je ne pourrais pas le dire. Ce que je sais, c'est que je crois dans la force de ce rencontre entre deux très grands comédiens. Nick, qui a 80 ans, qui a fait un travail de fou, et ont eu des douleurs partout, et ont eu beaucoup de mal, même à marcher parfois, devant la vitalité de Alba Rohrwacher. Il est devenu un jeune cowboy américain de 18 ans, qui se plongeait dans la terre, qui prenait des choses, qui cherchait avec toute sa force comme personnage, mais aussi, je pense, comme comédien, tellement ravi d'être devant cette, pour lui, une découverte. Et je pense que la force du film, s'il en a, il est là-dedans. Et donc, ça dépasse les mots. et les mots n'ont pas d'importance dans le cinéma. Et moi, j'y crois. Pour moi, le cinéma comme la fin. Je suis désolé, je suis pas tout à fait d'accord que c'est surtout pas un happy end, mais je ne pense pas que je pense que c'est un film complètement utopique, parce qu'il propose qu'il suffit très peu. Il suffit un respect. En fait, le geste le plus radical, je pense aujourd'hui, et du coup, devant un cynisme médiatique en général, un cynisme politique total, c'est Gianluca Fanini, le directeur de la Cinémathèque, qui l'a dit, et il me l'a dit il y a quelques années, il a dit: Jonathan, aujourd'hui, le geste le plus radical, c'est la sincérité. Et ça, honnêtement, ça a bouleversé. Et en fait, c'est très marrant de voir la réaction des gens au film, parce que je pense que ceux qui ont le courage encore d'affirmer une sincérité devant la barbarie régnante et le cynisme, pour moi, ce sont des résistants. Et je vois quelque chose dans l'échange possible avec le film.
Confronté à la fin, il y a ce geste civilisateur, ce retour à la fois à l'état de nature, symbolisé par le jardin que vous évoquiez d'Alba Rohrwacker, et de culture avec le dernier projecteur et la dernière caméra que bidouille construisent ensemble Nick Nolte et Khalifa Touré. On écoute un extrait de votre film, Jonathan Nociter.
All digital dust now. They knew the collapse of electrical grid was coming. That's why they started to make handmade film stock and manual projectors at the last minute. Now you have to build a real camera, a mechanical camera. Now, this side we've got to create a spring mechanism. But you're going to have to find a spring to make it work.
Maybe in Athens?
Athens. Who knows if we'll even get to Athens? Especially me. I'm pretty old. And even if we do get there, what will we find?
What do you think?
I heard Athens was half underwater. Sea and sand covered it 30 years ago. Earthquakes, famine, war took care of the rest.
Et là, c'est le personnage de Shakespeare qui nous raconte un peu aussi une histoire du cinéma dans l'échange qu'il a avec ce dernier homme incarné par Khalifa Touré, ce réfugié gambien qui est l'acteur principal, le comédien de ce film, le vôtre, Jonathan Nociter. Un bel échange sur le cinéma que vous placez au cœur de votre film. Il y a beaucoup d'extraits qui sont diffusés à la fois dans ce moment où ils sont ensemble à Bologne et où ils vont projeter sur le mur des extraits de films. Et puis ensuite, quand ils se retrouvent dans ce camp de réfugiés, ces derniers survivants qui sont là, près de ces ruines, près d'Athènes, à se projeter des films et à faire communion ensemble. Comment vous les avez choisis, ces extraits de films? Est-ce qu'ils disaient tous quelque chose pour vous?
Surtout, je voulais éviter, parce que le film est un hommage à la force du cinéma, mais j'espère pas un hommage narcissique, pas juste quelqu'un de complaisant qui dit « Oh, j'aime le cinéma », ou qui veut se montrer malin ou cultivé. Pour moi, je pense que, parce qu'on vit dans ce moment une marginalisation brutale de la culture, et je pense que le couvre-feu de 21 heures, qui me semble entièrement arbitraire, est un couteau aussi dans le dos de la culture, de spectacle, de cinéma, de la gastronomie, de l'être ensemble. Je pense que dans ce moment de barbarie, ça devient essentiel. Quand je vois hier soir à Montreuil pour une avant-première dans ce salle incroyable Méliès de Stéphane Goudet, qui est un résistant passionné, qui défend la culture dans un moment de guerre contre la culture, et pas simplement en France, et de par le monde. En France, en fait, vous êtes plus privilégiés que les autres. qui a une France Culture est déjà un miracle. Il n'y a pas moi j'habite en Italie, il n'y a pas de radio en Italie, Italie Culture, et là c'est vrai dans les autres pays. Donc vous êtes privilégié quelque part ici en France par rapport aux autres pays. Ceci étant, je pense que la culture n'a jamais été aussi menacée par l'extinction, même avant l'espèce humaine. Ce qui serait tragique, parce que si on réussit, ce qui était ce que Pasolini craignait d'ailleurs il y a 40 ans, que le projet néolibéral, le projet de la société de consommation, allait massacrer la culture comme seuls les régimes fascistes rêvaient et n'ont jamais réussi à faire. Et Pasolini le voyait très clairement. Je pense qu'il, hélas, s'il était vivant aujourd'hui, il verrait la confirmation de ses peurs. Et donc, du coup, l'affirmation de la culture, voir ces gens en salle, comme j'ai vu hier soir, à 18h, et en fait, on a terminé à 21h moins 20, un débat extrêmement émouvant pour moi. Je constate qu'on est là dans des actes de résistance positive, de partage de joie. Le cinéma, comme la radio, comme le journal, comme la littérature, est une affirmation de la liberté de nous tous, de l'importance d'être ensemble. Et donc, du coup, pour moi, oui, chaque extrait de film qu'on voit dans le film est un moyen d'accéder à cette joie de partager une transmission culturelle qui n'est pas anodine, qui est essentielle pour la survie. Et si on avait des gouvernements qui investissaient dans la santé, dans la santé publique, dans l'éducation et dans la culture, ce qu'ils gaspillent ailleurs avec des choses inutiles pour la survie de l'être humain, peut-être qu'on vivrait ni le Covid, ni beaucoup d'autres catastrophes.
Tous ces films, ils en disent aussi quand même assez long sur vous, sur votre passion du cinéma et la manière dont vous avez envie de le défendre. C'est vous qui avez choisi d'ailleurs chacun des extraits, puisqu'ils sont pas présents dans le livre d'Amigo Reyna. On y retrouve beaucoup de références à la fois à Buñuel, à Lumière, à Gibbons, à plein de réalisateurs, Fritz Lang, qui sont aussi présents dans ces extraits, mais pas d'extrait de 8,5 de Fellini. Vous dites pourtant que le réalisateur et le film, ce sont peut-être celui et celui qui vous ont le plus marqué. On écoute Fellini.
Une fois, j'ai écrit sur la caméra des 8,5 une petite phrase dressée à moi-même. Et la phrase était « Rappelle-toi que c'est un film comique. » Pour me rappeler toujours que je dois faire les films d'une façon plus légère et plus comique. Parce que j'ai la tendance à l'oublier. C'est une tendance peut-être vers le dramatique ou vers le philosophique. C'est ça la grande stupidité. Toujours nous jetons sur la spontanéité et sur la naïveté et sur la simplicité une espèce de cage d'interprétation, de devoir, remords, complexe d'infériorité, intellectualisation. Et tout ça, c'est toujours très suffocante, étouffant.
Étouffant, dit Fellini. Et c'est vrai qu'aussi dans les extraits, parmi ceux que vous avez choisis, chacun renvoie à des émotions très différentes. Il y a le rire avec l'arroseur arrosé, l'effroi avec un chien andalou, la virtuosité avec l'homme à la caméra, la panique aussi, la peur, l'espoir. Tous ces sentiments, ces émotions sont mêlés là. Et nous y sommes, dans ce monde de distanciation sociale. Vous nous réunissez dans l'écran, à travers l'écran. Vous montrez ces derniers hommes rassemblés au pied des ruines, regardant des films, des images, avec cette communion qui soudain semble possible et semble presque seulement possible dans la culture.
Et aussi dans le comique, c'est incroyable d'écouter ces mots de Fellini maintenant. Quelle émotion de sentir aussi sa joie de raconter. Mais c'est marrant cette chose qu'il a affichée, rappelle-toi que c'est une comédie. Ça me fait penser d'abord la grande majorité des extraits dans le film, donc c'est pas un playlist nocitaire, c'est pas mes films préférés, ça serait narcissique, égoïste de ma part, et un film est là pour être généreux et pour partager. Donc ce sont des extraits qui servent, j'espère, aux personnages. Ils sont là pour servir les personnages dans chaque scène, et c'est à 80% des extraits comiques. Et c'est pas par hasard, je pense. En fait, c'était inconscient, si vous voulez. Je cherchais aussi des extraits de films un peu plus lourds, mais ça marchait jamais. Ils ont été expulsés par eux-mêmes. Et chaque jour, bon, c'est un film qui raconte la fin de l'espèce humaine. Mais si j'insiste que c'est une vision utopique de l'homme, de ce dont l'homme est capable, et j'y tiens parce que chaque jour qu'on allait sur le tournage, avec Nick Nolte, Charles Rampling, Khalifa Touré, Stellan Skarsgård et les autres, on cherchait inconsciemment, c'était pas exprimé en paroles, mais je sais qu'on cherchait où est la tendresse, où est la joie. Avec le personnage de Charlotte, c'est explicite, parce que Charlotte joue une espèce de personne complètement déchaînée, qui n'a plus rien à perdre. Ce qui est, et donc ça lui donne une liberté folle devant la fin du monde. Et je pense que elle prend, et ça je pense c'est ancré en Charlotte comme personnage et comme comédienne, il y a une joie de vivre et une vitalité dans chaque moment, et le défi chaque jour sur le plateau, ok, fin du monde, c'est où la fête.
Et elle nous le racontait, hein, comment elle a construit ce rôle avec vous, comment vous l'aviez pensé ensemble, cette folie heureuse, cette joie qu'elle incarne dans ce film, jusqu'à son désir d'enfanter alors que le monde est en train de s'effondrer. Des images, des mots et des ruines, Jonathan Nociter. Dans le film, il y a aussi celles, les images, d'un temple grec qui pourrait être à Athènes, mais le tournage a eu lieu en Campanie, au sud de Naples. C'est une ancienne colonie grecque en Italie, à Paestum, où vous vous êtes installé sur un site archéologique. Il y a justement un gros livre de l'archéologue et historien Alain Schnapp qui sort en ce moment au Seuil, une histoire universelle des ruines, dont on vous reparlera dans cette émission. Cette conscience universelle, cette poésie des ruines. Est-ce que vous êtes, vous aussi, maintenant, décidé à ouvrir ce dialogue avec les ruines? Vous pensez qu'il est essentiel, que c'est notre mémoire aussi qui est en jeu?
Mais je pense que c'est essentiel, parce que je pense que devant cette barbarie régnante et cette violence contre l'être ensemble et le regarder ensemble, et en fait tous les fantasmes de la culture, je pense que la transmission culturelle aujourd'hui, comme acte vital, pas comme truc de snob ou passéiste, mais comme un geste démocratique et progressiste, mais imbu d'une vraie culture, je pense que ça n'a jamais été aussi essentiel. Et donc, oui, je pense que vivre... Bon, j'ai étudié le grec ancien à la fac, donc c'est un grand amour qui est en moi. Mais j'ai eu... heureusement, un enseignement de mes profs à la fac, surtout de Edward Bradley à Dartmouth, que lire Homère, c'est rentrer dans la réalité quotidienne de la vie contemporaine. Et je pense que la force de tout acte culturel qui peut être perçu comme vital, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir intrinsèquement. Parce que il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas un lien vital avec le passé.
Et il est question beaucoup aussi de la trace qu'on laisse dans votre film, Jonathan Nociter. La pellicule est une tablette vierge, la dernière chance de laisser une trace vivante de l'homme tel qu'il a été, dit le personnage de Shakespeare dans le film. C'est la question de la mémoire, de la transmission, du patrimoine, de la trace, de l'empreinte aussi, et donc tout simplement de nous. Capouani Kibwanga, elle vient d'être la nouvelle lauréate du prix Marcel Duchamp 2020. Elle est installée à Paris, c'est une artiste canadienne et elle va présenter jusqu'au 4 janvier 2021 au Centre Pompidou sa série Flowers for Africa dans le cadre de l'exposition collective qui réunit les 4 nommés pour ce prix Marcel Duchamp. Là encore, il y a question de patrimoine, de transmission et de la culture. Je vous propose qu'on l'écoute.
La subjectivité est assez importante dans ma façon de travailler. Je pense que c'est aussi un héritage de ma formation anthropologue, où il y avait un moment dans l'anthropologie où on essaie de laisser à côté cette idée d'une objectivité scientifique et d'écrire des rapports d'études anthropologiques avec un point de départ subjectif. Donc du coup, c'est vrai que il y a un moment dans mon travail, je pense que vers 2009, où je me suis mis devant la caméra pour la première fois. Et à ce moment-là, il y avait un déclic un peu dans mon travail où moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de recherches, tellement de choses que j'avais fait derrière la caméra, hors champ, etc., qui n'étaient pas accessibles aux visiteurs ou aux spectateurs, que le moment que je me suis mis devant et je me suis dit, bon, écoutez, je vais vous raconter une histoire, mon histoire, et je serai votre guide dans cette histoire très subjective. À partir de ce moment-là, mon travail a pris un peu plus d'accessibilité, je pourrais dire peut-être ça comme ça.
Voilà, le jury a salué la richesse et la complexité du projet de cette ancienne étudiante en anthropologie passée par les Beaux-Arts de Paris. Un programme poétique et politique, véritable laboratoire de la pensée d'aujourd'hui sur la mémoire et l'archive comme source de transfiguration du monde, Jonathan Nociter. Un peu partout, on a ce même cri, ce même appel, voire rappel, nous avons besoin de mémoire. Et cette autre question qui se pose...
On a besoin de le partager ensemble.
C'est ça. Mais pourquoi ?
Parce que sinon ça devient un acte narcissique et pas un acte politique. Et la culture prend de sa vitalité quand on est ensemble. Et donc malgré la couvre-feu, le mépris et la peur qui est installée hélas maintenant, moi je souhaite que tout le monde, mais tous les Français, ils vont au cinéma de 8h du matin jusqu'à une séance de 18h, pas simplement pour mon film, mais pour tous les films, et qu'ils affirment l'importance politique, joyeuse, culturelle, de voir ensemble.
Mais c'est aussi une manière d'essayer d'appréhender le temps. Vous le rappelez dans le film, hein, nous sommes le seul animal qui sait qu'il va mourir, et pourtant, il se comporte comme s'il avait l'éternité devant lui. C'est ça la grande affaire, hein.
Effectivement.
Aussi, ça
effectivement.
L'est.
Effectivement.
Merci beaucoup à vous, Jonathan Nociter, d'être passé autour de cette grande table pour nous parler de ce film qui sort en salle demain. Et j'invite tous les auditeurs à prendre le temps d'aller le voir, celui de vous écouter, d'écouter vos acteurs se réunir, parler cinéma, parler aussi du vivant, parce qu'on n'a pas parlé de votre autre casquette. Vous êtes cinéaste, mais aussi agriculteur aujourd'hui, paysan, cultivateur. Après avoir goûté, tâté du vin, vous avez même vous-même construit votre petit laboratoire, votre musée des semences, où vous pouvez chaque jour observer, admirer les merveilles du vivant. Le film s'appelle Last Words, il est donc au cinéma demain avec Nick Nolte, Charlotte Rampling, Khalifa Touré, allez-y, merci.